Le Grand Matin Sud Radio, 7h-10h, Patrick Roger, Cécile de Ménibus.
8h47, la suite des grands, enfin, les grands débats dans quelques instants, vous imaginez, hein, Elisabeth Lévy, Françoise de Goy dans le studio.
C'est non-stop, évidemment. C'est non-stop.
Mais
c'est
juste
non-stop,
avant de leur donner la parole, on va offrir un cadeau ce matin et on va l'offrir à Florent qui nous appelle.
Déjà,
d'Avignon. Ah oui, il était très rapide. 20e appel au standard. Bonjour Florent.
Bonjour, bonjour à toute l'équipe.
Bienvenue sur Sud Radio, on est ravis de vous offrir ce cadeau offert par Sud Radio et le Futuroscope de 2 jours au Futuroscope avec 4 personnes, alors les gens que vous voulez, hein, il faut juste des enfants, voilà, il faut que, ou alors des personnes de petite taille.
Il y a des grands enfants. Voilà.
Okay, il n'y a pas de problème. Ouais.
Il y a des grands enfants.
Vous nous écoutez depuis longtemps, Florent ?
Ah oui, ça fait quelques années, 4-5 ans je dirais que je vous écoute, oui.
Bon. Ah bon ? C'est bien.
Bah c'est bien.
Le matin,
fidèle.
Alors, on va tester. Alors, en 1984.
Oh là là. Il a dit 4-5 ans.
Non,
ceci,
mais ça va, je plaisante. Et vous faites quoi dans la vie, Florent ?
Je suis dans la sécurité.
Ah, très bien.
D'accord.
Parfait. Ouais. En tout cas, merci en tout cas d'avoir joué avec nous. Et on vous souhaite.
Je vous remercie beaucoup.
On vous souhaite un bon séjour. Vous enverrez des photos ?
Ah bah avec plaisir, oui, bah, avec plaisir,
voilà,
surtout qu'on n'y est jamais allé, donc ça va être vraiment...
Ah bah oui, super.
J'ai vu qu'il y avait des nouveautés en plus, donc c'est le top.
Ouais. Et Patrick Roger vous donnera son portable, comme ça vous lui enverrez directement sur son téléphone.
Ah, je croyais que vous vouliez m'inviter pour aller faire du roller coaster, comme.
Oui, mais j'ai peur que vous ayez
en
peur.
En milieu de journée, pas trop tôt le matin, quand même.
Vous n'êtes pas, hein, pas prêt pour ça. Merci beaucoup, Florent, d'avoir joué avec nous. On vous souhaite une belle journée sur Sud Radio.
Merci beaucoup.
Et la suite du Grand Matin Sud Radio avec les grands débats ce matin. Françoise de Goy, Elisabeth Lévy vous appelle comme tous les matins 0826 300 300. On va revenir sur le secret de la confession, vous savez, suite à la à ce qu'a dit Monseigneur Éric de Moulin de Beaufort, qui dit que c'était plus fort que la République. Et puis on va revenir sur les sondages, la valse des sondages suite à l'édito politique de Françoise de Goy.
Oui, les sondages avec Éric Zemmour qui est placé dans un de ces sondages au second tour de la présidentielle. Dans l'autre, il est à 13-14%. En tout cas, il y a quand même une dynamique. L'une des questions, d'ailleurs, on en débattra tout à l'heure aussi avec Roland Lescure, est-ce qu'il faut faire confiance à ces sondages ? C'est la question que nous posons. Et nous irons aussi, bien sûr, sur, puisque lui a écrit « Nos totems et nos tabous, dépassons-les », c'est un représentant de La République En Marche, c'est assez intéressant, ce sera un bon débat jusqu'à 9h30. Avant cela, ce mot et ce retour sur ce que l'on disait, c'est-à-dire le secret de la confession, est-ce que c'est au-dessus des valeurs de la public ou pas, Elisabeth Lévy, Françoise de Goy. Françoise de Goy.
Elle est mieux placée que moi, vous voulez dire, comme ayant été élevée dans une bonne école catholique.
J'ai été élevée en pension, moi, même chez les sœurs. À 5 ans et demi, j'étais en pension, donc je peux vous dire que je connais l'Évangile, on a tous appris à lire dedans. Je suis très choquée, moi, par cette déclaration. Je pense que ça n'est pas dicible. Bien sûr que tout croyant considère que son lien à Dieu, son lien mystique, sa transcendance, dépasse probablement le problème du quotidien et peut permettre de résoudre des problèmes que la loi mondaine, entre guillemets, en tout cas la loi, ne résout pas, des problèmes personnels. Donc on peut, évidemment que quand on croit, on pense ça, quel que soit pas simplement le monothéisme, les religions asiatiques, moi j'ai plein d'amis qui pratiquent le bouddhisme, qui considèrent aussi que, voilà, la prière va au-delà des phénomènes et des apparences. Moi ça me touche profondément, mais quand on est un grand prélat de l'Église, on ne dit pas ça. On ne dit pas ça parce que ça trouble profondément le jeu. Qu'est-ce qu'on va raconter ? Pendant des mois, les adversaires, et en tout cas les pourfendeurs de l'islamisme, et ils ont en partie raison, de l'islamisme politique, ont utilisé l'argument de la charia qui est au-dessus de la loi de la République. Mais donc, que font-ils maintenant quand un représentant de l'Église catholique dit exactement la même chose ? Moi, je suis très
Elisabeth Lévy.
Pardon. Ouais. D'abord, juste sur une chose, sur cette question de, en général, quand on dit la loi de Dieu est supérieure à la loi de la République, en réalité, individuellement, tout croyant conséquent pense cela, si vous voulez, en particulier dans le monothéisme, avec un Dieu transcendant, tout puissant, etc. Si vous êtes croyant, sinon vous n'êtes pas vraiment croyant, si vous pensez que... Mais justement, ce qui est intéressant, c'est que la laïcité instaure en quelque sorte un régime de schizophrénie acceptée. D'ailleurs, il y a la plupart des religions prévoient aussi que la loi de l'État s'impose. C'est dans tous les cas dans le judaïsme, il y a une phrase qui dit ça, qui dit la loi de l'État s'impose à la communauté. Donc on vit dans une sorte de régime de schizophrénie, c'est-à-dire que les gens pensent à la fois qu'on est par exemple pour les Juifs en 5800 quelque chose et que la Terre est à 14 millions d'années. Si vous voulez, on arrive à marcher sur ses deux pieds. Maintenant, pour ce qui est de la confession, c'est d'abord une déclaration très maladroite dans le contexte. Je pense que ça n'est pas la première fois que l'Église... D'abord, je pense que selon la loi, quand il y a un crime
on l'a dit tout à l'heure, il y a un article, normalement, on doit quand même...
Rappelez-le-moi, parce que
c'est
434.3.
Oui, qui punit hein, évidemment de 3 ans d'emprisonnement, 45 000 euros d'amende si on n'a pas déclaré s'il y a crime, s'il y a autre chose, quoi.
Donc je crois que c'est déjà le cas. Et en même temps, je peux comprendre le problème que ça pose. Je suis d'accord avec François, c'est une déclaration qui, dans le contexte, si vous voulez, c'est pas très malin, c'est pas audible, c'est pas disible. Mais je peux comprendre, si vous voulez, le problème que ça pose d'un point de vue des croyants. Quand vous êtes croyant, vous allez vous confesser. Je parle sous le contrôle de Françoise, donc. Vous allez vous confesser, effectivement, c'est un lien intime et un lien secret entre vous et votre prêtre.
Professeur et Dieu.
Donc, si vous voulez, ça pose un problème d'imaginer, si vous voulez, que cette confiance est rompue. Dans un autre registre, c'est un peu comme si vous disiez, maintenant, les avocats doivent balancer tout ce que leur disent leurs clients, vous voulez.
Ce débat, même si c'est pas religieux, sur le secret médical.
Absolument.
On a demandé aux médecins, et les médecins disent non, on garde le secret médical.
Et le secret des avocats.
On est devant une affaire où il y a 330 000 victimes, si on compte les laïcs, les diacres, etc.
Les victimes des laïcs.
Donc tout ce qui n'est pas prêtrise, clergé, etc. Vous imaginez le désastre. D'abord, honneur à l'Église catholique d'avoir accepté de faire cette enquête les yeux ouverts. Ça, c'est remarquable. On ne peut pas accepter cette déclaration d'un grand prélat, je le redis, d'une grande figure politique à ce niveau-là. Les évêques, les porte-paroles sont des figures politiques. Et je le redis, j'attends de ceux qui nous bassinent toute la journée avec la charia qui s'est supérieure à la loi de la République, avec ce sondage assez délirant sur la charia dans les quartiers, j'attends que les mêmes dénoncent ce prêtre. Et ils ne le feront pas, évidemment. Et là, c'est pour ça que moi, je pense qu'il y a quand même une indignation à double vitesse.
À géométrie variable. Je ne sais pas ce qu'on en pense au 0826-300-300. Attendez, 0826-300. 300, qui est avec nous ce matin?
C'est Philippe qui est avec nous. Bonjour Philippe.
Oui, bonjour.
Bonjour Philippe.
Bonjour Elisabeth, bonjour tout le monde.
Bonjour Philippe.
Content de vous retrouver. Pour moi-même, concernant l'Église catholique, oui. Je pense personnellement que c'est l'affaire des avocats et de l'Église. L'Église n'est pas au-dessus des lois, donc à partir de là, j'estime que voilà, il n'y a pas lieu d'en faire un plat. Et à eux de régler, enfin à la justice de régler
La justice et l'Église, quoi. La justice et l'Église.
L'Église n'est pas au-dessus de la justice.
Mais ce que je veux dire, régler, réparer avec éventuellement ce qui est possible, quoi. La reconnaissance, bien sûr.
La justice peut la contraindre et astreindre à réparer. Voilà, je crois que. Et après, il y a des sujets plus préoccupants. Je pense personnellement, pour le peuple français, c'est qui sera président.
Et qu'est-ce que vous pensez? Alors, on va débattre des sondages dans un instant, est-ce que vous faites confiance, vous, aux sondages, globalement? Quel est votre regard par rapport à ça?
Alors, les sondages, je ne fais plus confiance aux sondages, je ne fais plus confiance aux médias mainstream. Je personnellement, et on est beaucoup, et je pense qu'on est beaucoup, je ne veux pas parler au nom de tout le monde, puisque je ne connais pas tout le monde, mais on est beaucoup à écouter les réseaux sociaux, à lire Le Canard Enchaîné, à lire Mediapart.
À écouter Sud Radio.
Voilà, mais tout ce qui est médias mainstream, comme France Info, machin, etc., ils vous parlent de Macron tous les jours. Mmh. Et là, je me demande où est le CSA pourquoi il ne dit rien. Parce que quelque part, on nous bourre Macron, c'est dans
le. En même temps, il est président de la République, donc c'est vrai qu'il se déplace sur le terrain, donc bon. Mais c'est bien, mais même nous, on en parle forcément, bien sûr.
Il le fait exprès, mais quelque part, il joue pour la présidentielle en faisant ça. De toute façon, il est malin, Macron est malin, M. Macron est très malin. Ouais. Et le problème, c'est qu'aujourd'hui, il y a un Éric Zemmour. Zemmour qui monte, qui a été créé par les médias mainstream et que j'ai l'impression qu'ils ne maîtrisent même plus.
Bon, merci en tout cas Philippe. Dans un instant, on va en débattre, on va y revenir.
Avec, ils sont malins, nos
auditeurs. Non, mais vous avez bien placé le débat et le curseur. On poursuit dans un instant avec Françoise de Goix, Elisabeth Lévy, Roland Lescure également, soutien d'Emmanuel Macron, puisque vous avez évoqué Emmanuel Macron, eh bien il sera avec nous parce qu'il écrit un livre, Nos totems et nos tabous, dépassons-les. On va voir jusqu'où. Il sera avec nous, lui en tout cas jusqu'à 9h30, avant de fêter l'Aveyron,
dans la France à vos côtés. Avec des acteurs, vous allez voir, on va vous parler de ce département qui gagne à être connu. Restez là, c'est le Grand Matin Sud Radio.
Le Grand Matin Sud Radio, 7h-10h, Patrick Roger, Cécile de Ménibus.
Il est 9h05, les grands débats ce matin. Elisabeth Lévy, Françoise de Goix, vos appels 0826-300-300. Et puis Roland Lescure est avec nous. Ce livre, Nos totems et nos tabous, dépassons-les, aux éditions de l'Aube.
Oui, bonjour à vous.
Bonjour.
Vous allez participer au débat et on va revenir dans un instant dans le détail, en fait, sur votre livre. Hein. Vous dites derrière chaque mot, chaque expression, en France, c'est quasiment inflammable. Hein. Donc vous, avec votre vision, vous avez passé 10 ans à Montréal, vous êtes revenu ici et vous dites... aujourd'hui, il faut dépasser certains tabous. Bien sûr, nous verrons jusqu'où et lesquels avec vous. Revenons quand même sur ce sondage que nous évoquions tout à l'heure avec Philippe l'auditeur qui était avec nous. Vous aurez la parole tout à l'heure, Elisabeth Lévy, donc chacun à son tour. Alors, un sondage place désormais Éric Zemmour au second tour, donc derrière Emmanuel Macron, mais devant Marine Le Pen. Alors, c'est un seul sondage, hein, celui en fait d'Harris Interactive. L'autre, hier, donne toujours Zemmour à 13-14%. La fiabilité des sondages, on l'a évoqué ce matin aussi dans l'édito de Françoise de Goix, est souvent contestée, et cette fois encore, Félix Mathieu.
Oui, on ne manque pas de relever toutes les fois ils se sont trompés. Édouard Balladur, longtemps favori en 95, Lionel Jospin donné au second tour face à Jacques Chirac en 2002, Hillary Clinton donnée gagnante aux États-Unis en 2016. Sauf que bon, ces sondages donnent des tendances, des dynamiques de semaine en semaine. Et justement, en mars 2002, par exemple, plus d'un mois avant le premier tour, les sondages commençaient à montrer un rapprochement des courbes de sondage entre Lionel Jospin et Jean-Marie Le Pen. Le risque de croisement des courbes, d'ailleurs, disaient certains à gauche, même si le candidat Lionel Jospin, interrogé sur ce sujet, avait refusé de s'en inquiéter. Quant à Donald Trump en 2016, il a gagné, mais grâce au système des grands électeurs. Par contre, Hillary Clinton a bien eu quasiment plus de 3 millions de voix de plus que lui dans le vote populaire, le vote des Américains de base. C'est finalement ce qu'estimaient les sondages. Sauf que, aux États-Unis, le président n'est pas élu au suffrage universel direct.
Oui, et d'ailleurs, un dernier mot, selon une étude américaine, les sondages sont fiables à près de 90%.
Oui, c'est ce qu'affirment des chercheurs texans, figurez-vous, avec une formule mathématique. Ils ont modélisé 621 élections présidentielles dans 86 pays où ça se joue au suffrage universel direct, comme en France donc. Le tout sur une période allant de 1945 à 2012. Et résultat donc des sondages qui avaient vu juste dans 80 à 90% des cas, et même dans plus de 90% des cas sur les plus récentes élections en Amérique latine.
Merci pour ce fact actuel, comme chaque matin avec vous, Félix Mathieu. On va en débattre dans un instant. Qu'est-ce qu'on dit d'ailleurs sur la question que l'on pose sur les réseaux sociaux, Cécile ?
Alors, on vous demande si vous faites confiance au sondage. Pour l'instant, vous nous dites non à plus de 86%. Et David nous dit, j'ai un souvenir de la claque en 2002 de Jean-Pierre Chevènement et le passage de 16% à 6% le soir du premier tour.
Oui, c'est vrai.
Je voudrais dire, Elisabeth Lévy, en 2002, j'étais dans la campagne de Jean-Pierre Chevènement. Le passage à la veille du deuxième tour, on n'était plus du tout à 16%. On a été à 16% un jour.
Oui, et là, le problème... C'est ce qu'il dit, de 16% à 6%.
Oui, mais c'était pas... Les sondages l'avaient annoncé, en vrai.
Roland Lescure et Françoise de Goix.
Ça a été bien dit. Les sondages, aujourd'hui, ils n'ont aucun caractère prédictif pour ce qui se passe dans 8 mois, mais ils donnent quand même une idée de l'atmosphère aujourd'hui. Si l'élection avait lieu demain, peut-être qu'on aurait les résultats du sondage d'hier. La différence entre maintenant et dans 8 mois, c'est qu'il va y avoir une campagne électorale, qu'il va falloir présenter des idées, des hommes, des femmes, des ralliements, des projets, des programmes. Pour l'instant, Zemmour, c'est un one-man show, plutôt de qualité d'un point de vue du showbiz, mais je ne suis pas sûr qu'il porte...
C'est un adversaire qui dit ça.
Non mais c'est vrai, il faut reconnaître. Moi j'ai vu, puisque je vivais en Amérique du Nord, la hausse vertigineuse de Donald Trump en 2016, et on en parlait il y a une seconde, il a gagné sans le vote populaire, puisqu'aux États-Unis vous pouvez gagner sans être majoritaire, Ici, il faut l'être. Mais c'est vrai que cette hausse, elle est spectaculaire et qu'il est entré dans l'atmosphère, y compris avec des sondages comme celui d'hier.
Ouais. Françoise de Gouin.
Rappelons quand même que exactement ce que dit Roland Lescure, tous les sondages de l'automne ne donnent jamais le vainqueur. Il faut même les prendre à l'inverse. Tous les sondages de l'automne d'une présidentielle donnent toujours Balladur gagnant, Alain Juppé gagnant, je vous rappelle. Hein. Honnêtement, voilà.
C'est vrai, c'est une photo à une période donnée. Les sondages évoluent par la suite.
Est-ce que je peux dire je me désole vraiment de cette appétence médiatique pour ce spectacle-là. Qu'est-ce que c'est ce sondage Harris Interactive que tout le monde fait semblant de croire? C'est la société du spectacle. Pardonnez-moi de vous le dire. Les gens, les analystes sérieux, sondeurs disent bien sûr qu'Éric Zemmour, il navigue. Excusez-moi. Oui. Bien sûr qu'il navigue entre 12 et 14%. Mmh. Bien sûr, 17. Pourquoi est-ce qu'on met 17? Parce qu'on ne le corrige pas. On est sur des échantillons avec uniquement des gens qui sont sûrs d'aller voter. Mmh. Alors que dans le même temps, vous expliquez qu'il va y avoir 50% d'abstention. Donc, c'est un peu de la foutaise, de la fumisterie, mais ça nous intéresse, parce que c'est la société du spectacle. On a besoin de ça. On a besoin de ça. Ouais. La réalité, si vous voulez, c'est que ça trouble le jeu, pour moi, démocratique. Ça trouble le jeu général, mais les Français sont pas des idiots. Ouais. Vous avez aussi les sondés qui jouent avec les sondeurs. Ouais. Qui ça, disent, tiens, Zemmour, tiens,
Saturnus, Elisabeth Lévy et Roland Lescure. Et puis, vous pouvez appeler. Hein. Il y aura toujours un petit peu de place pour vous, évidemment. 0826 300 300.
Ce que je trouve ça un peu fort de café, parce que dans la même phrase, Françoise de Gouin nous dit, il y a les gens sérieux, les sondeurs d'ailleurs, dans les gens sérieux et les autres. Mmh. Moi, je fais partie des gens sérieux. Ah non, Françoise, ça suffit. Ne commence pas.
Oui.
Donc, moi, je fais partie des gens sérieux, donc je vais vous dire ce qu'il convient de penser. Alors que, il y a une chose sur laquelle je suis d'accord, si vous voulez, c'est que toute cette affaire, c'est le journalisme politique est largement devenu un commentaire de la course de chevaux. Mmh. Et donc, effectivement, c'est devenu un événement politique à chaque fois qu'il y a un sondage. Donc, l'usage, c'est pas tant les sondeurs qu'il faut incriminer que l'usage que nous, médias, on en fait, parce que quand on sait pas trop bien comment parler d'une élection avant l'élection, si vous voulez, on fait du commentaire de sondage. Donc c'est ça, vrai. Je dis, c'est de notre faute. Maintenant, pour ceux qui
juste petite parenthèse, Elisabeth, quand vous croisez quelqu'un qui n'est pas dans ce milieu politique ou dans les médias, qu'est-ce qu'il vous pose comme première question pour parler de la présidentielle? Que donnent les sondages?
Non, la première question qu'il pose, c'est est-ce que X, Y ou Z va gagner?
Ben voilà,
comme
c'est
si
ça.
Vous aviez votre boule de cristal.
Oui, oui, bien sûr. Comme quoi, il y a un intérêt, quoi.
Après, il y a un intérêt. Parce que, effectivement, si vous voulez, il y a cette espèce, vous l'avez dit, de fantasme de la prédiction, comme si, effectivement, les 6 mois qui vont venir n'existaient pas. Maintenant, sur le cas de Zemmour, puisque c'est ça dont il était question, je suis d'accord que, évidemment, un sondage comme ça, où on fait un sondage de deuxième tour, etc., n'a pas énormément de sens. En revanche, ce que je vois, c'est une dynamique, si vous voulez.
Roland Lescure.
C'est un vrai phénomène politique, il faut le reconnaître. En quelques semaines, il est apparu dans l'atmosphère, on en parle partout. J'espère qu'on va parler plutôt du fond et de ses idées, que moi je qualifie de nauséabondes, plutôt que de l'homme, parce qu'au fond...
Mais on parle beaucoup des idées.
Exactement. C'est-à-dire, mais quand on commente un sondage, on commente un phénomène. Quand on parle des idées, de celles qui véhiculent, avec lesquelles je suis en profond désaccord, moi je me retrouve... C'est un peu ce que j'essaie de faire dans mon bouquin, qui est un peu l'anti-Zemmour. C'est-à-dire qu'on prend un sujet inflammable, on essaye d'éteindre l'incendie, d'avoir une discussion plutôt raisonnée, les pour, les contre, et de fabriquer du consensus. On est dans une société où on adore, comme on dit au Québec, se chicaner, se diviser. Se déchirer. Et lui, il fait partie des déchireurs professionnels. Moi, je pense qu'on doit pouvoir essayer de se rassembler dans une présidentielle, surtout, vous l'avez dit, je soutiens Emmanuel Macron, dans une logique de réélection. François Mitterrand, quand il a été réélu, il a rassemblé. Jacques Chirac, en 2002, il rassemble. Moi, j'espère qu'on va réussir à rassembler face à des déchireurs professionnels qui cherchent à nous diviser.
Deux choses. Alors moi, il y a une chose que je trouve insupportable, si vous voulez, c'est votre vocabulaire.
Nauséabond.
Excusez-moi, on n'est pas à l'église, d'accord? Si vous avez des problèmes...
Je vais pas à l'église.
Si vous avez des problèmes de narines et si vous avez des problèmes de haut-le-cœur, eh bien, il faut vous soigner. Mais moi, j'en ai un peu ras-le-bol de ces leçons de maintien. Oh, j'ai mes vapeurs, j'ai la nausée. C'est un vocabulaire inacceptable en politique. J'en ai ras-le-bol, virus d'un côté, nauséabond de l'autre. J'en ai ras-le-bol, nauséabond, ça n'appartient pas.
Qui remet en question.
Pardon, mais c'est la première chose. Nauséabond, ça n'appartient pas au registre de la politique.
Oui, mais les juges d'accord, de France ont été
la gauche olfactive, la politique olfactive, ça n'intéresse plus personne.
Bon, ça, c'est le premier point.
Deuxième point.
Deuxième point. Si vous voulez,
le déchireur. Le déchireur. Eh bien, moi, je vais vous dire ce qui déchire les gens. C'est qu'on nie depuis des années. Moi, je me rappelle quand j'ai commencé Causeur, on nous accusait. Alors là, c'était Alain Pinkielkraut, il y avait déjà Zemmour. Moi-même, on nous disait, vous attisez les haines, vous énervez les gens. Et je me rappelle, un des premiers courriers que j'ai reçus, c'est quelqu'un qui me disait, non, ça nous calme au contraire que des gens entendent ce que nous vivons, que des gens arrêtent de mettre sous le tapis la réalité telle que nous la vivons.
Bon, mais c'est bien beau, mais il y a un moment, il faut aussi passer en mode solution. Nauséabond, excusez-moi, quelqu'un qui remet en cause le fait que l'État français, pendant la guerre, ait envoyé des Juifs français dans les camps de concentration, je trouve ça nauséabond.
Il ne remet pas ça en cause.
Mais bien sûr que si, il l'a dit explicitement. Deux, vous avez raison, il y a des colères, il y a des craintes, il y a des haines. Trump a surfé dessus, le Brexit a surfé dessus, et Zemmour surfe dessus. Maintenant, un responsable politique, qu'est-ce qu'il fait? Il les écoute ou il essaye d'y répondre? Il poursuit la déchirure pour l'accroître ou il essaye de la fermer? Moi, je considère que, par exemple, en faisant l'amalgame traditionnel de l'extrême droite entre l'immigration et l'intégration, on a des enjeux d'intégration de première, de deuxième, de troisième génération d'immigrants en France. On remet tout ça sur l'immigration, le grand remplacement, la grande invasion, histoire de déchirer, histoire de tendre,
et si
histoire
c'était
de
la vérité
diviser.
S'il y avait un vrai problème migratoire dans notre
la
pays...
La vérité, c'est qu'il y a un sujet d'intégration
mais 70%
aujourd'hui.
Des électeurs jeunes, le pensent,
il y a des
monsieur,
jeunes français, il y a des jeunes français qui sont français depuis deux générations, qui n'ont toujours
et
pas
qui
de job...
Et qui sont moins français que leurs grands-parents, qui se sentent moins français que leurs grands-parents, qui aiment moins leur France que leurs grands-parents.
Mais vous ne les renverrez pas chez eux, parce que chez eux, c'est à Sarcelles, Bondy ou Montreuil. Donc vous les renvoyez chez eux,
mais excusez-moi,
Françoise de Goye et ensuite...
Honnêtement, voilà à quoi arrive ce genre de conversation. Moi, je rejoins Roland Lescure, pour une fois que je suis d'accord avec La République En Marche, noté greffier.
Bienvenue,
rejoignez-nous. Non, bienvenue, non, certainement pas, même pas en rêve. Mais je veux dire par là que, honnêtement, parce que je
vous
pense
que... Vous l'avez échappé, belle, c'est pas un cadeau.
Ouais, Françoise.
Je pense qu'on a le droit de dire nauséabond. Moi, je comprends même pas, Elisabeth Lévy, comment est-ce que tu peux soutenir un type qui parle du docteur Mengele, qui est capable de ressortir cette figure honnie et épouvantable du nazisme pour comparer les enfants qui se font opérer, les trans, aux opérations du docteur Mengele. C'est dingue. Il est en train de réintroduire dans le débat public sa vision fantasmée de l'histoire, parce qu'Éric Zemmour n'est pas un intellectuel pour moi. C'est quelqu'un de cultivé. Un intellectuel, c'est quelqu'un qui crée un système de pensée. Il n'a aucun système de pensée. Il a toujours la même vision monolithique, obsessionnelle de l'histoire, et il dit quelques belles conneries sur l'histoire. Donc, honnêtement, cette folie des sondages, je le redis, nous sommes dans une société de spectacle. C'est pour moi la signification du naufrage, du tout à l'ego, du tout à la gueule. Comment un grand parti, pardon Patrick, comment un grand parti, même un président comme Emmanuel Macron, sont capables de changer de cap parce que trois sondages mettent un polémiste à 10%. Pourquoi est-ce que
Michel Barnier et Elisabeth Lévy, on va voir dans un instant avec Roland Lescure les tabous, les totems justement qu'il faut faire sauter. Lesquels? Allez, restez avec nous et vous pouvez appeler et réagir 0826 300 300, je
vois
que ça vous veut réagir. Avant, c'est vrai. Avant de parler de l'Aveyron en fait et en scène.
Absolument, à tout de suite.
Le Grand Matin Sud Radio, 7h-10h, Patrick Roger, Cécile de Ménibus.
Il est 9h21 et avec nous ce matin, Roland Lescure, un porte-parole de La République En Marche, président de la Commission des Affaires Économiques à l'Assemblée et auteur de ce livre, Nos Totems, Nos Tabous, dépassons-les, aux éditions de l'Aube, avec un B.
Alors, vous dites dans votre livre, nous devons aller beaucoup plus loin pour renverser un petit peu, bousculer ces totems, ces tabous. Vous parlez beaucoup alors de la fin de vie, notamment aussi de notre rapport avec l'argent, y compris aussi avec la politique. Qu'est-ce que vous avez envie de souligner plus précisément?
D'abord, j'ai envie de retrouver l'esprit de 2017. Emmanuel Macron, il arrive comme un peu un chien dans un jeu de quilles. Il parle de sujets dont on ne parlait pas.
Un peu
pas.
Comme Zemmour aujourd'hui, quoi.
Oui, avec, je pense, un peu plus de profondeur et surtout un peu plus de modération, radicalité excessive.
Le titre de son livre, vous vous souvenez?
Révolution. Ouais. Et je l'ai lu et ça a été ma lecture de 2016 qui m'a convaincu, en fait, de lâcher un job merveilleux à Montréal pour me présenter. Donc,
gagner 10 fois moins, c'est ce que vous dites aujourd'hui que ce que vous gagnez auparavant.
Ça me donne une liberté extrême aujourd'hui. Ouais. Et donc, je pense que temps de se reposer des questions qu'on n'ose pas trop se reposer pour les bousculer. Moi, ce qui m'a frappé, par exemple, depuis quelques semaines, quelques mois, c'est qu'aujourd'hui, dans le système politique français, tout le monde est gaulliste, par exemple. Ah oui, oui. Jordan Bardella est gaulliste, Jean-Luc Mélenchon est gaulliste, Éric Zemmour est gaulliste, en fait, tout le monde est gaulliste. Et quand tout le monde est gaulliste, je pense qu'il faut peut-être passer à autre chose, dépasser ce totem extrêmement lourd de la politique française pour inventer une nouvelle forme de modernité. Je pense qu'Emmanuel Macron, il y participe. Le rapport à l'argent, vous l'avez dit, on a une espèce de rapport à l'argent un peu honteux qui fait que quand les Pandora Papers débarquent en montrant qu'il y a des riches aujourd'hui qui, pour vivre riches, vivent cachés, c'est le titre de ce chapitre, préfèrent cacher leur argent dans les paradis fiscaux que de le montrer au vieux au-dessus de tout le monde. Je plaide pour la transparence sur tous les revenus. Je plaide
surtout,
aussi...
Surtout, je fais une parenthèse sur les Pandora Papers, quand certains donnent des leçons, comme Tony Blair, pour taxer en fait l'immobilier, et que lui-même est le premier quand même à aller cacher son argent. Quoi.
Exactement, soyons exemplaires. Moi, j'ai très bien gagné ma vie, j'ai aussi très bien payé mes impôts, merci. Et donc, je suis aujourd'hui dans une logique, je pense, où je peux, en toute liberté, exprimer ce que je pense. Je parle du cannabis, je parle de la fin de vie, que d'ailleurs je qualifie d'euthanasie, il faut le dire, c'est encore un tabou, on n'ose pas parler des vraies choses. L'euthanasie, ça veut dire belle mort en grec. Il est temps qu'on organise effectivement, les Français ils sont prêts, certains parlementaires un peu moins, une fin de vie organisée qui font que les gens vont pouvoir choisir un peu plus.
J'ai une question justement sur ces totems. Est-ce qu'il y a, c'est la fin du « en même temps » ? Parce qu'en même temps, c'était un peu mou finalement. Est-ce que maintenant, il faut être beaucoup plus cash ?
Moi, je préfère effectivement parler du « à la fois ». C'est-à-dire qu'on peut être à la fois de gauche sur certains sujets et de droite. Le risque du « en même temps », qui je pense était un discours extrêmement porteur à l'époque, c'est qu'on oublie l'eau chaude et l'eau froide et qu'on fasse de l'eau tiède. Donc je pense qu'il faut effectivement repenser un peu la manière dont on présente nos choses, être capable de pousser les feux des deux côtés.
C'est ce qu'on reproche un peu à Emmanuel Macron, non, justement, d'avoir fait quand même...
Moi, je pense que lui est
attendez,
resté...
Attendez, là, est-ce qu'il y a une réforme forte de ce quinquennat que les Français pourront retenir à la fin ?
Oui, il y en a, bon, quand on fait des sondages...
Alors, bon, non, qui est allé au-delà
des tabous. Le dédoublement des classes...
On va vous demander au 0826 300 300 si
Le dédoublement des classes dans les petites classes, dans les zones d'éducation prioritaire.
Dans certaines zones, oui.
La remise en question, ce qu'on appelle les ordonnances travail du marché du travail traditionnel.
Syndicats. C'est pas une réforme de l'éducation nationale, ça a dédoublé en fait.
Il y avait un tabou, ça fait 30 ans qu'on en parlait, l'Europe est incapable de s'endetter ensemble. Ouais. Maintenant, grâce à lui, on s'endette ensemble.
Je ne sais pas si on paiera ensemble, c'est ça la question.
L'idée justement, c'est que pour la première fois, on va payer ensemble.
Il y en a certains qui n'ont pas envie.
Oui, mais ils l'ont signé, on a eu un accord au sommet européen, il va falloir y passer maintenant. Donc évidemment, les tabous, ça fait mal, on a du mal à en parler, certains en Europe... Même certains en France ont du mal à les dépasser. L'égalité femmes-hommes. Il y avait des violences dans la rue. Il y avait des violences à la maison. Il y avait des inégalités salariales. C'est les Françaises et les Français.
Ça baisse pas beaucoup.
Mais ça baisse quand même. Et surtout, on en parle beaucoup plus. Il y a des choses qui sont rendues inacceptables. On en parle sur vos antennes. On en parle dans la rue. Autour de nous.
Honnêtement, on n'a pas entendu Emmanuel Macron pour en parler. Ça fait quand même 10 ans, 15 ans que c'est à l'ordre du jour qu'il y a eu des lois sur la...
C'est pas vrai. Moi, je suis arrivé dans une assemblée. Franchement. Extrêmement machiste. Et on s'est retrouvé du jour au lendemain avec presque 50% de femmes à l'Assemblée. Les gens me l'ont dit, les comportements ont changé. Quand vous mettez, ça s'est vu tout à l'heure, des femmes dans la salle, les débats changent un peu de nature. Et moi, je trouve ça très bien. On n'a pas terminé. Je pense que le combat pour l'égalité...
C'est pour ça que vous continuez.
Exactement. Il faut continuer. Ce combat, c'est un combat d'une vie. Mais malgré tout, il a fait des choses pour parfaire, améliorer l'égalité entre les femmes et les hommes. Ça faisait 30 ans que les femmes étaient censées toucher autant que les hommes dans les entreprises. On n'avait rien fait pour le faire.
Oui, vous dites qu'il faut rassembler. Pourtant, il y a 3 ans en arrière, au moment du mouvement des Gilets jaunes, on dit qu'il a clivé notre société, Emmanuel Macron.
Et je pense qu'il le reconnaîtrait. Oui, et il a appris de ça. Le grand débat, les annonces qui ont été faites dans la foulée, la Convention citoyenne pour le climat, je pense qu'il a compris que même s'il faut garder cette radicalité initiale de bousculer des totems, de parler des tabous, il faut le faire sans doute en écoutant les gens et en étant prêt peut-être parfois à être mis en minorité sur certains sujets.
Ouais. Mais vous avez parfois du mal à être d'accord avec lui, parce que sur le cannabis, il a du mal à trancher, Emmanuel Macron. Et parce c'est proche, alors que vous, vous dites il faut le légaliser.
Oui, j'y ai passé un peu de temps, j'ai vécu au Canada pendant 10 ans, qui a décidé de légaliser, et c'est pas la panacée. Le trafic n'a pas disparu du jour au lendemain au Canada, donc c'est un sujet compliqué.
Mais
donc
ça se déplace, non ?
Oui, et je comprends que lui... prennent un peu de temps avant de fermer le sujet d'une manière ou d'une autre. Je pense que ça arrivera dans la campagne, il fera ce qu'il voudra. Mais moi, après avoir vu ce qui se passe au Canada, aux États-Unis, je pense que la meilleure manière de bien réguler le marché, en fait,
C'est de le contrôler, quoi.
Voilà, il faut légaliser pour mieux contrôler.
C'est quand même incroyable, parce qu'on légalise ce qui est de la drogue, quoi.
Exactement. Et donc, il ne faut surtout pas... D'un côté caricaturé, j'aime beaucoup Gérald Darmanin, mais dire la drogue c'est de la merde, c'est un peu simplifié, mais non plus nier les méfaits. C'est une substance qui a des méfaits, notamment sur les maladies mentales. Ouais. Donc je considère, c'est le cas aux États-Unis dans un certain nombre d'États, c'est le cas au Canada, c'est le cas dans un certain nombre de pays, que dans les pays où on a légalisé, on a aussi mis plus d'argent pour la prévention, on a mieux protéger les mineurs, parce que c'est surtout pour les mineurs que c'est dangereux. Et évidemment, il ne faut pas le légaliser pour les mineurs.
Si on légalise, pardon, pour que je comprenne bien, ça veut dire que le cannabis sera forcément de meilleure qualité, ouais. Donc c'est ça, donc on pourra le contrôler, ça n'empêchera pas avec des tarifs qui vont augmenter puisque ce sera de meilleure qualité, mais ça veut dire qu'il y aura aussi des ventes sous le manteau de cannabis.
Non mais vous mettez le doigt sur le sujet. Comment vous monopolisez, si je puis dire, la distribution, en mettant des tarifs suffisamment prohibitifs pour éviter que tout le monde fume partout, mais que ce ne soit pas non plus trop cher par rapport au trafic. Quand vous voyez ce qui se passe au Canada, par exemple, aujourd'hui, 3 ans après la légalisation, c'est 50-50. 50% marché noir qui n'a pas disparu, qui a quand même baissé de 50%, et 50% marché public. Donc il faut vraiment intégrer la difficulté de ce sujet, légaliser, bien réguler, avoir du cannabis de meilleure qualité, en passant produit en France, chez mon ami Jean-Baptiste Moreau, en Creuse, par exemple.
Oui, oui.
Donc il y a tout un sujet économique, il y a un sujet fiscal, il y a un sujet de prévention des maladies mentales, qui n'est pas facile, mais je considère quand même que on a plutôt intérêt à légaliser pour mieux réguler.
Allez, vous avez déclenché des appels au standard 0826 300 300. C'est Sandrine qui est avec nous, qui veut réagir à notre débat. Bonjour Sandrine.
Bonjour Sandrine.
Oui, bonjour à vous, bonjour à tous. Et je voudrais dire un grand bonjour à Elisabeth, que j'aime beaucoup.
Ah ben voilà.
Bah, elle est partie, mais elle vous entend.
Elle vous entend, elle est juste
ouais,
à côté.
J'adore. Et je voulais dire à ce monsieur-là,
monsieur Lescure,
vous n'avez toujours pas compris, cher monsieur, que nous ne voulons plus de vous et de tout ce que vous représentez. Nous ne voulons plus de ça. Vous n'avez pas compris encore. Hein.
Qu'est-ce que vous ne voulez plus, Sandrine?
Attendez. Oui. Quand on vous écoute, on a l'impression que vous avez tout inventé. Tout vu, tout fait. Et Macron, c'est du vent, Macron. Et vous n'avez rien inventé, je suis désolée de vous le dire.
Soyez pas désolé, c'est votre droit et c'est la démocratie. Et exactement. Et vous voterez, j'espère, en tout cas, en mars ou en avril prochain, un ou une candidate qui sera la vôtre. Et la démocratie parlera. Moi, mon job, si je peux me permettre, c'est d'essayer de convaincre qu'on est plutôt dans le vrai et qu'on a fait plutôt des bonnes choses depuis 4 ans et demi. Et votre droit, c'est de vous y opposer. Mais je pense que merci d'ailleurs d'ouvrir ce débat de manière à ce qu'on puisse savoir.
Ça, le débat.
Ouais. Moi, je considère que sur l'économique, sur le social, sur la place de l'Europe dans le monde, sur la place de la France dans l'Europe, sur la gestion de la crise sanitaire quand même. Dire, quand on se compare, franchement...
Ah bah oui, la crise sanitaire, on a bien vu comment ça a été mené. Hein. On a bien vu la calamité et puis la médiocrité.
Je ne sais pas si on peut dire ça. Moi, quand on regarde, là encore, de manière aussi objective que possible, la mortalité excessive dans notre pays, il y a eu des morts, évidemment, de la Covid, et je le regrette, mais beaucoup moins qu'ailleurs. Les taux de vaccination, plus forts qu'ailleurs. Le soutien économique et social, plus fort qu'ailleurs. Les enfants qui sont allés à l'école. Moi, je suis député du Canada, des États-Unis, il y a des gamins qui n'ont pas mis les pieds à l'école pendant 18 mois. Évidemment, on n'a pas fait tout parfaitement. On a vu une épidémie à laquelle on ne s'attendait pas, qui nous a tous balayé. Mais malgré tout, je pense que la France, et c'est en grande partie au leadership d'Emmanuel Macron qu'on le doit, s'en est plutôt bien tiré.
Merci Roland Lescure. Je ne sais pas s'il vous a convaincu. Je n'en doute pas.
Il ne m'aura pas convaincu. Bon, c'est vrai que c'est intéressant de pouvoir parler avec des gens qui ont un avis différent du mien.
Ah bah c'est bien.
Il faut qu'ils comprennent et arrêtez d'insulter les gens quand vous parlez de nauséabonde et tout ça. Ça devient insupportable.
J'entends. C'est entendu.
Ça devient insupportable et on ne peut pas discuter. C'est quelque chose. Moi, j'ai 52 ans, j'ai plus envie d'entendre parler de cette seconde guerre mondiale, s'il vous plaît.
Oui, oui. Ah, c'est vrai. Alors, mais il ne faut pas non plus que,
c'est une bonne question. J'en ai 55, moi.
Oui.
Mais c'est vrai que c'est insupportable, j'assure. Hein.
Bon, mais merci.
En tout cas, merci pour ce débat apaisé,
merci
Sandrine.
Vous avez la parole sur
Sud Radio. Parlons vrai. Allez, merci Roland Lescure. Donc,
merci
je rappelle
à vous.
Le titre de votre livre, Nos totems et nos tabous, dépassons-les. Vous reviendrez évidemment en débat.
Avec grand plaisir.
Sur Sud Radio.
Non, mais j'aime beaucoup la Véron.
Ça tombe bien parce qu'on
va en parler. On célèbre la Véron aujourd'hui.
Absolument.
Et la Ligo aussi.
C'est ça.
Évidemment.
Merci d'avoir été avec nous. Dans un instant, on va parler de Aveyron en scène avec des acteurs économiques. Merci d'être avec nous. Il est 9h32.